Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 10, chapitre 4. Persécution. Effort du duc Georges. Le couvent d'Anvers. Muhlenberg. Les trois moines d'Anvers. L'échafaud. Le martyr à Bruxelles. Les flammes de feu que vomissait l'humble et doux Adrien allumèrent l'incendie, et son frémissement imprima à toute la chrétienté une immense agitation. La persécution, quelque temps arrêtée, recommença. Luther trembla pour l'Allemagne et s'efforça de conjurer l'orage. « Si les princes, dit-il, s'opposent à la vérité, il en résultera un tumulte qui perdra princes, magistrats, prêtres et peuples. Je tremble de voir bientôt l'Allemagne tout entière nager dans le sang. Élevons-nous comme une muraille et préservons notre peuple de la fureur de notre Dieu. Les peuples ne sont plus maintenant ce qu'ils ont été jusqu'à cette heure. Le glaive des guerres civiles est suspendu sur la tête des rois. Ils veulent perdre Luther, mais Luther veut les sauver. Christ vit et règne. Je vivrai et je régnerai avec lui. » Ces paroles furent sans effet. Rome se hâtait vers les échafauds et vers le sang. La Réformation, comme Jésus-Christ, n'était pas venue apporter la paix, mais l'épée. La persécution était nécessaire dans les voies de Dieu. Comme on durcit les objets par le feu pour les mettre à l'abri de l'influence de l'atmosphère, ainsi le feu de l'épreuve devait garantir la vérité évangélique de l'influence du monde. Mais ce feu fit plus encore. Il servit, comme dans les premiers temps du christianisme, à allumer dans les cœurs un enthousiasme universel pour une cause poursuivie avec tant de fureur. Il y a dans l'homme, quand il commence à connaître la vérité, une sainte indignation contre l'injustice et la violence. Un instinct qui vient de Dieu le pousse à se ranger du côté de ceux qu'on opprime. Et en même temps, la foi des martyrs l'élève, le gagne, l'entraîne vers cette doctrine salutaire qui donne tant de courage et tant de paix. Le duc Georges se montra à la tête de la persécution, mais c'était peu que de l'exercer dans ses propres états. Il voulut surtout qu'elle ravageât la Saxe électorale, ce foyer de l'hérésie, et il fit tout pour ébranler l'électeur Frédéric et le duc Jean. Des marchands, leur écrivait-il de Nuremberg, venant de la Saxe, rapportent sur ce pays des choses étranges et contraires à l'honneur de Dieu et des saints. On y reçoit avec la main le sacrement de la scène. On consacre dans la langue du peuple le pain et le vin. On met le sang de Christ dans des vases ordinaires. Et même un homme, à Eulenburg, pour insulter le prêtre, est entré dans l'église monté sur un âne. Aussi qu'arrive-t-il, les mines dont Dieu avait enrichi la Saxe s'épuisent depuis les prédications novatrices de Luther. Oh, plût à Dieu que ceux qui se vantent d'avoir relevé l'évangile dans l'électorat l'eussent plutôt porté à Constantinople. Luther a un chant doux et agréable, mais une queue empoisonnée qui pique comme celle du scorpion. Dressons nos mains au combat. Jetons dans les chaînes ces moines apostats et ces prêtres impies. Et cela sans retard, car les cheveux qui nous restent blanchissent aussi bien que nos barbes et nous montrent que nous n'avons plus que quelques jours pour agir. Ainsi écrivait le duc Georges à l'électeur. Celui-ci lui répondit avec fermeté et douceur que quiconque ferait une mauvaise action dans ses états n'échapperait pas à la condamnation qui lui serait due, mais que, pour ce qui regardait les consciences, il fallait s'en remettre à Dieu. Georges, ne pouvant persuader Frédéric, se hâta de sévir autour de lui contre l'œuvre qu'il haïssait. Il jeta en prison les moines et les prêtres sectateurs de Luther. Il rappela les étudiants de ses états, des universités que la réforme avait atteintes, et il ordonna qu'on livrât aux magistrats tous les nouveaux testaments en langue vulgaire. Les mêmes mesures furent prises en Autriche, en Wurtemberg et dans le duché de Brunswick. Mais ce fut dans les Pays-Bas, soumis à l'autorité immédiate de Charles Quint, que la persécution se déchaîna avec le plus de force. Le couvent des Augustins, à Anvers, était rempli de moines qui avaient accueilli les vérités de l'Évangile. Plusieurs des frères qui s'y trouvaient avaient séjourné quelque temps à Wittenberg, et depuis 1519, on prêchait le salut par grâce dans leur église avec une grande énergie. Le prieur Jacques Probst, homme ardent, et Melchior Mirisch, qui se distinguait au contraire par son habileté et sa prudence, furent arrêtés et conduits à Bruxelles vers la fin de l'année 1521. Ils y comparurent devant Aléandre, Glapion et divers autres prélats. Surpris, interdit, effrayé, Probst se rétracta. Melchior Mirisch sut adoucir ses juges. Il échappa à la fois à la condamnation et à la rétractation. Ces persécutions n'épouvantèrent point les moines restés dans le couvent d'Anvers. Ils continuèrent à annoncer l'Évangile avec force. Le peuple accourait en foule, et l'église des Augustins de cette ville se trouvait trop petite, comme l'avait été celle de Wittenberg. En octobre 1522, l'orage qui grondait sur leur tête éclata. Le couvent fut fermé, et les moines furent jetés en prison et condamnés à mort. Quelques-uns parvinrent à s'échapper. Des femmes, oubliant la timidité de leur sexe, arrachèrent l'un d'eux, Henri Zupfen, à ses bourreaux. Trois jeunes moines, Henri Voss, Jean Esch et Lambert Thorn, se dérobèrent pendant quelque temps aux recherches des inquisiteurs. On vendit tous les vases du couvent, on barricada l'édifice, on en sortit, comme d'un lieu infâme, le Saint-Sacrement. La gouvernante des Pays-Bas, Marguerite, le reçut solennellement dans l'église de la Sainte Vierge. On ordonna de ne pas laisser pierre sur pierre de ce monastère hérétique, et l'on jeta en prison plusieurs bourgeois et des femmes de la ville qui avaient écouté avec joie l'Évangile. Luther fut rempli de douleur en apprenant ces nouvelles. « La cause que nous défendons, dit-il, n'est plus un simple jeu. Elle veut du sang, elle demande la paix. » Mirisch et Probst devaient avoir un sort bien différent. Le prudent Mirisch devint bientôt le serviteur docile de Rome et l'exécuteur des arrêts impériaux contre les partisans de la Réformation. Probst, au contraire, échappé aux inquisiteurs, pleura sa faute. Il rétracta sa rétractation et il prêcha avec courage à Bruges, en Flandre, la doctrine qu'il avait abjurée. Arrêté de nouveau et jeté dans les prisons de Bruxelles, sa mort paraissait inévitable. Un franciscain prit pitié de lui, l'aida à fuir, et Probst, sauvé par un miracle de Dieu, dit Luther, arriva à Wittenberg, où sa double délivrance remplit de joie les cœurs des amis de la Réforme. Partout les prêtres romains étaient sous les armes. La ville de Miltenberg, sur le Main, qui appartenait à l'électeur archevêque de Mayence, était une des cités germaniques qui avait reçu la parole de Dieu avec le plus d'empressement. Les habitants avaient une grande affection pour leur pasteur, Jean Dracon, l'un des hommes les plus éclairés de son temps. Il fut contraint de s'éloigner, mais les ecclésiastiques romains, effrayés, sortirent en même temps, redoutant la vengeance du peuple. Un diacre évangélique demeura seul pour consoler les âmes. En même temps, des troupes de Mayence entrèrent et se répandirent dans la ville, la bouche remplie de blasphèmes, brandissant l'épée et se livrant à la débauche. Quelques chrétiens évangéliques tombèrent sous leurs coups. D'autres furent saisis et jetés dans les cachots. Les rites de Rome furent rétablis. La lecture de la Bible fut interdite et il fut défendu aux habitants de parler de l'Évangile même dans leurs plus intimes entretiens. Le diacre s'était réfugié, au moment de l'entrée des troupes, dans la maison d'une pauvre veuve. On vint le dénoncer au chef, qui envoyèrent un soldat pour s'en emparer. L'humble diacre, entendant le soldat qui cherchait sa vie s'avancer à grands pas, l'attendit en paix, et au moment où la porte de la chambre s'ouvrit brusquement, il alla avec douceur à sa rencontre, l'embrassa avec cordialité et lui dit « Je te salue, mon frère, me voici, plonge ton glaive dans mon sein. » Le farouche soldat, étonné, laissa tomber son glaive de ses mains et empêcha qu'on fît aucun mal aux pieux évangélistes. Cependant, les inquisiteurs des Pays-Bas, altérés de sang, battaient le pays et cherchaient partout les jeunes Augustins échappés à la persécution d'Anvers. Esch, Voice et Lambert furent enfin découverts, jetés dans les chaînes et conduits à Bruxelles. Egmont Danus, Hochstraten et quelques autres inquisiteurs les firent comparaître devant eux. « Rétractez-vous, leur demanda Hochstraten, votre assertion que le prêtre n'a pas la puissance de pardonner les péchés et que cela n'appartient qu'à Dieu seul. » Puis il énuméra toutes les autres doctrines évangéliques qu'il les sommait d'abjurer. « Non, nous ne rétracterons rien !» s'écrièrent Esch et Voes avec fermeté. « Nous ne renierons pas la parole de Dieu. Nous mourrons plutôt pour la foi. » L'inquisiteur. « Avouez que vous avez été séduit par Luther. » Les jeunes Augustins. « Comme les apôtres ont été séduits par Jésus-Christ. » Les inquisiteurs. Nous vous déclarons hérétique, digne d'être brûlé vif, et nous vous livrons au bras séculier. Lambert gardait le silence, la mort l'épouvantait, l'angoisse et le doute agitaient son âme. « Je demande 4 jours, » dit-il d'une voix étouffée. On le ramena en prison. Aussitôt que ce délai fut expiré, on retira solennellement à Esch et à Voice la consécration sacerdotale, et on les livra au conseil de la gouvernante des Pays-Bas. Le conseil les remit, les mains liées, au bourreau. Hochstraten et 3 autres inquisiteurs les accompagnèrent jusqu'au bûcher. Arrivés près de l'échafaud, les jeunes martyrs le regardèrent avec calme. Leur constance, leur piété, leur âge arrachaient des larmes même aux inquisiteurs. Quand ils furent liés, les confesseurs s'approchèrent. « Nous vous le demandons encore une fois. Voulez-vous recevoir la foi chrétienne ?» Les martyrs. « Nous croyons à l'Église chrétienne, mais non à votre Église. » Une demi-heure se passa, on hésitait, on espérait que la vue d'une si affreuse mort intimiderait ces jeunes hommes. Mais, seuls, tranquilles, au milieu de la foule qui s'agitait sur la place, ils entonnèrent les psaumes, s'interrompant de temps en temps pour dire avec courage « Nous voulons mourir pour le nom de Jésus-Christ. » « Convertissez-vous, convertissez-vous » s'écriaient les inquisiteurs, « ou vous mourrez au nom du diable. » « Non, répondirent les martyrs, nous mourrons comme chrétiens et pour la vérité de l'Évangile. » On mit le feu au bûcher. Tandis que la flamme s'élevait lentement, une paix divine remplissait leur cœur, et l'un d'eux alla jusqu'à dire « Il me semble reposer sur un lit de rose. » L'heure solennelle était venue, la mort était proche. Les 2 martyrs s'écrièrent d'une voix forte « Ô Domine Jésus, Fili David, miserere nostri !»« Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de nous !» Puis ils se mirent à réciter d'une voix grave le symbole de la foi. Enfin les flammes les atteignirent, mais elles brûlèrent les liens qui les retenaient aux piliers avant que de leur faire perdre le souffle de la vie. L'un d'eux, profitant de cette liberté, se jeta à genoux dans le feu et adorant ainsi son maître, il s'écria en joignant les mains « Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de nous !» Le feu entoura leur corps, ils entonnèrent le Te Deum Laudamus. Bientôt la flamme étouffa leur voix, et il ne resta plus d'eux que des cendres. Cette exécution avait duré 4 heures. Ce fut le 1er juillet 1523, que les premiers martyrs de la Réformation donnèrent ainsi leur vie pour l'Évangile. Tous les hommes de bien frémirent en l'apprenant. L'avenir inspirait de vives craintes. « Les supplices commencent, » dit Erasme. « Enfin, » s'écria Luther, « Jésus-Christ recueille quelques fruits de notre parole et il crée de nouveaux martyrs. » Mais la joie que la fidélité de ces deux jeunes chrétiens avait causée à Luther était troublée par la pensée de Lambert. Celui-ci était le plus savant des trois. Il avait remplacé Probst à Anvers dans ses fonctions de prédicateur. Agité dans son cachot, effrayé par la mort, il était encore plus par sa conscience qui lui reprochait sa lâcheté et qui le pressait de confesser l'Évangile. Bientôt, délivré de ses craintes, il proclama hardiment la vérité et il mourut comme ses frères. Une riche moisson s'éleva du sang de ces martyrs. Bruxelles se tourna vers l'Évangile. « Partout où Aléandre élève un bûcher, dit Erasme, c'est comme s'il semait des hérétiques. « Vos liens sont mes liens, s'écria Luther, vos cachots sont mes cachots, et vos bûchers sont mes bûchers. Nous sommes tous avec vous, et le Seigneur est à notre tête. » Puis il célébra dans un beau cantique la mort des jeunes moines. Et bientôt, en Allemagne et dans les Pays-Bas, dans les villes et dans les campagnes, on entendit retentir ces chants qui partout répandaient l'enthousiasme pour la foi de ces martyrs. Non, leur cendre ne périt pas. Partout cette sainte poussière, dispersée au loin sur la terre, sème à Dieu de nouveaux soldats. Satan, en éteignant leur vie, au silence les contraignit. Mais leur mort brave sa furie et chante en tout lieu Jésus-Christ.